amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec l'Hacienda, la communauté des fans de Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Cette semaine, on va parler de récession et comment faire face à la crise quand on est une start-up. Et sachez que Silicon Carnet n'échappe pas aux vicissitudes économiques et a besoin de votre soutien. Je vous rappelle que cette émission fonctionne sans pub et que nous avons décidé de ne pas mettre son contenu derrière un paywall. C'est vous, les auditeurs, qui financez ce programme en rejoignant l'Hacienda, la communauté des fans de Silicon Carnet. Alors, si vous appréciez Silicon Carnet, vous pouvez contribuer à ce projet en achetant un ou plusieurs de nos NFT. Ce sont des sortes de cartes de membres qui vous donne droit à plein d'avantages. Vous accédez à la communauté, vous avez accès à mes notes de l'émission, vous participez aussi au comité éditorial de Silicon Carnet. Ça se passe sur siliconcarnet.uncut.fm. On compte sur vous. Allez, place à votre épisode. La crise de 2022 est sans doute la troisième grande crise technologique après la bulle de 2001 et la grande récession de 2007. Nombreux sont les experts qui donnent des conseils aux fondateurs sur la manière de surmonter cette tempête, mais peu de personnes dans notre secteur ont traversé des crises d'une ampleur pareille. Bien entendu, chaque crise est différente et il n'existe pas de réponse toute faite, mais mon expérience m'a appris qu'il existe certaines mesures essentielles que les startups doivent prendre lorsque l'environnement économique se détériore. Alors, la récession affecte-t-elle toutes les startups de la même manière? Quelles sont les entreprises qui ont le plus de chances de s'en tirer? Est-ce qu'on peut lever des fonds, même dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui? On va tenter de répondre à toutes ces questions dans Silicon Carnet avec mes deux invités, Pierre Gobil et Ben Marel. Alors, mon premier invité, c'est Ben Marel, qui est le CEO et le General Partner de Brega, ce fonds d'investissement français, mais qui opère au-delà de la France, hein, sur d'autres géographies que simplement la France et qu'on connaît bien. Ben, bienvenue dans Silicon Carnet, comment ça va?
Salut, merci de me recevoir sur Silicon Carnet.
Non, c'est un grand plaisir, écoute, de t'avoir parmi nous. Écoute, explique-nous un peu plus Brega, et vous êtes un fonds, c'est votre troisième fonds, je crois. Vous êtes en train de lever votre troisième fonds?
Ouais, ça c'est selon la police, mais...
Selon la police.
Selon les manifestants, il y en a un peu plus. Et non, effectivement, on est déjà à notre cinquième et on va sur notre...
Ah, cinquième ?
Ah ouais, déjà ah ouais. En à peine 7 ans, bientôt 8 ans. Ouais. Non, c'est une histoire de dingue. Et effectivement, ouais. Donc, c'est né à Paris, mais très vite Londres. Et on est un des tout premiers fonds français, d'ailleurs un des tout premiers fonds européens à avoir réussi ce challenge. Désormais ouais. Barcelone et puis dans les semaines qui viennent, des news à venir. Donc voilà, on s'étend sur la planète et on continue à faire ce qu'on fait pas trop mal, je pense, et essayer d'aider les founders en leur apportant, en leur partageant surtout un peu notre expérience de founder, parce que comme tu le sais, on est tous entrepreneurs chez Brega, donc voilà.
Ouais, et c'est marrant d'ailleurs, parce que quand je te présente, tu es pas simplement General Partner chez Brega, mais tu es aussi CEO, ce qui est un titre qui est très founder-minded, quoi, en fait. On n'a pas l'habitude d'entendre qu'un general partner d'un fonds soit aussi le CEO. C'est une volonté d'afficher on est du côté des entrepreneurs?
Ouais, c'est pas du marketing, c'est vraiment le fait de se dire, en fait, on a créé Brega comme une boîte entre guillemets normale. Et ouais. Déjà, dans un premier lieu, on s'était dit, tu vois, l'idée de dire à un partenaire qui soi-disant lève des fonds, investit et aide son portefeuille, c'est dur à mettre en place. Et donc, on a été un des tout premiers à venir avec cette idée de se dire, voilà, on va avoir une scaling team dédiée au soutien de notre portefeuille pour que chacun fasse bien son métier. Et en poussant la réflexion plus loin, bah, finalement, ça veut dire qu'on a organisé Brega comme une vraie boîte. Et avec notre ADN, on s'est dit, bah, une vraie boîte, c'est organisé comme on le sait, avec une équipe, et cette équipe, elle est l'idée par un CEO. Et donc, naturellement, on a adopté cette organisation qui nous va bien, qui nous colle bien à la peau, qui correspond à qui on est, parce que cette idée de chaque partenaire fait un peu son boulot dans son coin, comme le font certains fonds, ça nous correspondait moins bien. Donc ouais. Je pense que c'est...
Vous êtes combien chez Brega aujourd'hui?
40 personnes.
40?
Et ouais. Wow. 40 personnes, ouais. Donc ça pousse, ouais, ça va vite. Ouais.
On ne pouvait pas faire une émission qui donne des conseils aux startups sans inviter dans Silicon Carnet celui que vous connaissez, celui que vous attendez fébrilement, bien évidemment. Je parle de El Professor. El Professor.
descendre. Quand ça dépend de l'être humain dans ce money. Belle bitch toujours. Yaga dans ce moulin et sauf tête dans l'année.
Voilà, El Professeur, Eve in the place. Salut Pierre, comment tu vas?
Mais ça va bien, ça va manquer ce jingle.
Et oui, non, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas retrouvé dans Silicon Carnet. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais où?
Bah écoute, je continue mon projet 34 éléments et là j'ai lancé un freemium pour faire expérimenter ce qu'on fait. Donc du coup, j'ai plein de travail parce qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent au freemium et donc j'ai moins de liberté, quoi.
Ah merde, donc en fait tu bosses, c'est ça, quoi, en fait, c'est pour ça.
Ouais, exactement.
D'accord. Ok, rappelle-nous 34 éléments, ce que c'est. En fait, t'as créé une sorte d'académie de l'entrepreneur, quoi, en fait. Hein, c'est un peu ça, quoi. Surtout du start-up.
Ouais, je pars du principe qu'on apprend assez mal l'entrepreneuriat aux gens et que tout ce qui existe me semble pas adapté ou toxique. Et donc, j'ai voulu inventer un nouveau truc. Et c'est 34 éléments qui a un parti pris assez particulier, qui est de dire il faut d'abord penser de manière stratégique avant de faire un produit. Et donc, je fais réfléchir, mais mes bonnes cibles, c'est des gens qui ont déjà une certaine expérience dans leur startup et qui commencent un petit peu à douter, donc qui commencent à se poser des questions et qui ont envie de revisiter tout ce qu'ils font pour remettre tout à plat. Et donc l'expérience, elle est quand même assez transformative. À la fin, il change pas mal de trucs quand même.
Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que toi, tu veux dire que l'expérience de devenir entrepreneur, c'est forcément empirique. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles de commerce, parce qu'il y a des, sortes de spécialités entrepreneuriales, ça sert à rien? C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Mon point de vue, c'est qu'il y a deux façons d'apprendre. T'as d'abord de manière expérimentale, ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que dans l'échec, on apprend des trucs, on n'essaie pas de les refaire. Et donc ça, c'est typiquement la démarche entrepreneuriale classique. Je me lance et je verrai bien ce qui se passe et je vais gérer. Et la deuxième méthode, c'est d'apprendre des autres. Et ça, on le fait très mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de gens qui ont monté des startups avant nous, il y a plein de gens qui ont fait des trucs avant nous et qui ont quand même sorti quelques vérités sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ces vérités, elles sont un peu cachées dans la masse d'informations qu'on peut avoir à disposition. Elles sont pas forcément prémâchées pour qu'on les comprenne vraiment. Et finalement, on fait sans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui foncent à l'instinct et qui se disent « je verrai bien ce qui m'arrive et je vais gérer ». Et je trouve ça un peu idiot parce que il y a plein de trucs qu'on peut faire, pas à l'instinct, parce qu'on a déjà expérimenté tout ça avant, collectivement.
Et ce playbook, parce que toi, tu as passé énormément de temps dans la Silicon Valley, tu as été revenu en France, là, aujourd'hui, et tu as ramené le playbook de la Silicon Valley, c'est ça? Parce que souvent, moi, je te suis, on est très potes, hein, tous les deux, les gens le savent, donc je sais très bien ce que tu fais, et j'ai l'impression que tu as ramené le playbook de la SV, quoi, en fait, et que tu considères que la Silicon Valley a ce playbook?
Bah, écoute, je vais être hyper polémique, mais il n'y en a qu'un playbook, à ma connaissance.
C'est celui de la Silicon Valley,
le reste, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est eux qui ont toutes... C'est simple, hein, c'est parce que c'est l'endroit où on est le plus expérimenté. Et de cette expérimentation est né un playbook qui a été mis à disposition du monde. Et le monde le réexploite aujourd'hui. Mais tout vient de là.
Et il y a aussi le fait que dans la Silicon Valley, il y a ce partage finalement des connaissances qui est presque naturel, qui se fait pratiquement automatiquement. T'as l'impression qu'en France, c'est pas forcément le cas?
Ben, écoute, c'est pas forcément le cas, mais ça commence à aller un peu mieux. Ouais. J'essaie de montrer l'exemple. Si j'ai fait un podcast, pas pour te faire concurrence, alors je suis pas là, hein, mais pour donner ce que je fais un peu dans l'académie, dans le podcast. Et donc, en fait, dans le podcast, il y a beaucoup de matière.
Et le podcast s'appelle 34 éléments, pour ceux qui veulent l'écouter. C'est pas du tout un format de talk show comme Silicon Carnet. C'est des petites pastilles. Ça m'a fait... c'est super bien fait, bien évidemment. Ça dure 3 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est un sujet à chaque fois qui est décortiqué. Il y en a 34, je suppose.
Ouais, mais c'est vraiment du give back. Hein. Je donne des vraies recettes de cuisine, des vrais trucs.
Et c'est gratuit. Donc, allez-y. Hein. Allez, c'est snackable. C'est comme des M&M's qu'en fait, vous mangez ça une dose tous les matins et vous prenez ça avec de la vitamine C et du magnésium et normalement vous êtes un entrepreneur.
Clairement, ouais.
Ouais, là, il peut rien vous arriver. Bon les gars, rentrons dans le sujet. En préparant cette émission, je me suis posé la question, j'ai dit bon bah voilà, récession, mode d'emploi, mais est-ce que pour toi Ben, le monde est rentré en récession? Techniquement, j'ai l'impression que c'est pas encore le cas, quoique aux États-Unis, on a eu 2 trimestres consécutifs où le produit intérieur brut a été négatif. Donc techniquement, on est effectivement dans une forme de récession ici aux États-Unis. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on se dit qu'il y a quelque chose qui effectivement tourne pas rond. Pour toi, est-ce que ça y est, on rentre dans une récession là, ou on est déjà dans une récession?
Ouais, Tu sais, il y a toujours la définition un peu technico-technique des économistes, et puis il y a ce que tu observes, et il y a la réalité un peu du terrain. Tu vois, l'inflation, la consommation, la hausse des taux,
le prix de l'énergie,
la crise énergétique, des boîtes qui commencent à faire des plans de licenciement. Tu sens bien quand même que c'est pas la fête, quoi. On est quand même dans une situation où on a profité d'un essor économique. Et on pourra revenir là-dessus, je suppose, hein, tu vois, qui a été un peu dopé à coup de planches à billets des banques centrales, qui fait qu'on a entretenu un sentiment de situation économique florissante, et que là, ça s'arrête un peu, et que cet arrêt, sur fond de guerre en Europe, en plus, qui est terrible, fait que, oui, les temps commencent à être durs, et ils vont probablement être encore plus durs, là, en début d'année prochaine. Enfin, je rappelle que, tu vois, pour la première fois en 70 ans, probablement, la France a commencé à parler de faire du load shedding, quoi, de faire des coupures d'électricité pour permettre aux gens d'utiliser l'infrastructure. C'est quand même un truc de normalement payer en voie de développement, tu vois, et on en est là, donc on est bien dans une situation, on peut pas dire que ce soit la fête, quoi. C'est pas...
Ouais, non, mais c'est vrai que Noël est en train d'approcher, les fêtes de fin d'année sont en train d'approcher. Normalement, on se pose des questions de riches, hein. Quand les fêtes de Noël approchent, on se dit, est-ce qu'on va avoir du saumon ou du caviar ou du foie gras, quoi, en fait. Et là, on se pose la question de savoir si on va avoir de l'électricité, quoi, en fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la question que vous êtes en train de vous poser en France. Nous, on n'a pas de problème ici aux États-Unis, hein. Les usines à charbon fonctionnent merveilleusement bien, donc il n'y a aucun problème, on n'a pas de coupure d'électricité en vue. Mais vous, en France, effectivement, ça a l'air d'être...
En France et dans toute l'Europe. Attends, tu vois, nous, encore, à la limite, on ne s'en sort pas si mal que ça, parce qu'on a fait un pari du nucléaire que certains ont rejeté à grande dame en disant que ce n'était pas la solution. Les Allemands qui ont fait le pari du gaz russe, je ne pense pas qu'ils aient non plus la solution. Il y a un problème fondamental et qui touche toute l'Europe, et donc on voit bien les limites du système. Donc ça va forcément plonger tu vois, les économies dans une situation délicate. On voit bien qu'avec l'augmentation du coût de l'énergie, on a des industries qui commencent à plier boutique, hein. Tu as une recrudescence du dépôt de bilan en Europe qui est en train de démarrer, notamment chez les PME, tu vois, qui peuvent pas supporter le coût, et ça, après, c'est typiquement la situation de réaction en chaîne où tu commences à fermer des usines, donc plus de jobs, plus de consommation, moins d'usines, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est le cercle vicieux de ça y est, patatras, ça marche moins bien, l'économie marche moins bien.
Pierre, je discutais avec un haut dirigeant d'une start-up dans la Silicon Valley, grosse start-up qui commence par un G et qui finit par un E, parce que je ne peux pas dire son nom, bien évidemment, mais qui me disait c'est vrai, effectivement, il y a une forme de tension économique, mais lui se posait la question de savoir si on n'était pas en train aussi de fabriquer un peu la crise, quoi. C'est-à-dire que on a le sentiment là, en tout cas dans la Silicon Valley, que tout le monde, 2022 s'est plié, ça a été une anus horribili, quoi, pour tout le monde. Bon, je me rappelle même pas si 2021 était bien ou 2020, je sais plus quand est-ce que c'était bien la dernière fois. Et tout le monde, on a l'impression que tout le monde s'attend à ce que 2023 soit terrible, et que du coup on est en train de prendre des décisions, et je rappelle que c'est en ce moment qu'on vote les budgets pour l'année prochaine, enfin ils sont maintenant votés, mais ils ont été décidés il y a déjà quelques mois, et qu'on a pris des décisions dans les budgets, et qu'on a anticipé une année qui va être catastrophique, et donc on fabrique un petit peu la crise. Par exemple, il me disait, au lieu de fabriquer 3 data centers, on va en fabriquer 15. Si on en fabrique 15, forcément, on va faire moins de revenus. Si on fait moins de revenus, notre cours de bourse va baisser. Si notre cours de bourse baisse, on va virer des gens, pour maintenir notre profitabilité, etc. etc. Donc, est-ce que non, les fondements sont pourris, la planche sur laquelle on est assis est pourrie, ou est-ce que c'est juste de la peur et on fabrique de la crise, Pierre ? C'est une question difficile, hein, ce que je te pose.
Je vais te donner une statistique que j'ai lue il y a très peu de temps sur les US. 76% des vendeurs dans les sociétés n'ont pas fait leur quota en Q3. Wow. Et en Q4, on pense que ça va être 80%. Or, le benchmark, quand tu crées un plan de com pour une boîte, c'est que à peu près 65% des vendeurs atteignent le quota. Ça, c'est le benchmark. Si tu es en dessous, c'est pas bon. Si tu es au-dessus, c'est que ton truc est mal fait. Donc là, on a 80% des vendeurs dans les boîtes américaines qui vont pas atteindre leur quota.
On parle pas des startups, là. Tu parles du mec qui vend des machines à outils.
Exactement. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a prévu comme tu vois, comme chiffre d'affaires, je te parle de vente, hein, comme chiffre d'affaires, on est très loin de l'atteindre. Mmh. C'est-à-dire que les boîtes ne vont pas faire ce qu'elles ont prévu. Donc, on va avoir évidemment une baisse du chiffre d'affaires pour ces boîtes-là, donc une baisse des financements. On a aussi une crise des liquidités, une crise du financement en plus de ça. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est qu'on dit que 2023 s'est plié aussi, parce qu'on va vivre une crise du financement pendant toute l'année 2023, et ça pourrait redémarrer en 2024, pour autant qu'on n'ait pas une guerre et qu'on n'ait pas des trucs du niveau d'une guerre dans le monde. Donc oui, c'est pas du tout bidon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres donnent raison au fait que ça se passe pas bien.
Ben, oui, vas-y.
Non, j'allais rebondir, j'allais dire, tu vois, en fermant les yeux, en prenant du recul, tu vois, d'un point de vue macroéconomique, quand même, on est dans le monde occidental, en tout cas, on est dans un monde qui par nature est un peu à croissance nulle. Tu vois, en fait, on a une population qui croit plus. On a une économie qui est quand même un peu au taquet. Tu vois, on peut consommer un peu plus, mais on peut pas acheter 25 voitures et 45 téléviseurs. Tu vois, il y a un effet plateau qui est un peu naturel. Donc, t'as une croissance qui est toujours un peu juste. Alors, on se bat toujours en disant c'est un point, c'est deux points, c'est trois points. Bon, c'est et ce qui pose la question de repenser le modèle. Tu vois, et après, on pourra parler en quoi ça impacte les startups et la tech. Moi, j'ai toujours été partisan plutôt du jeu à somme nulle en disant, bah en fait, quand tu grandis, c'est que tu kills aussi les acteurs en place et le legacy. Donc, tu peux survivre dans un monde à somme nulle. Mais enfin, bon, soit. C'est une autre parenthèse. Et là, dans cette situation-là, tu as aux portes de l'Europe, donc aux portes de la plus grosse économie mondiale quand même, une guerre, il faut appeler un chat un chat, tu vois, une guerre qui touche en plus directement l'économie de l'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est un sujet prégnant parce que, tu vois, ça fait...
Bah, sans énergie, il n'y a pas d'économie, quoi, ça c'est clair.
Donc, je pense qu'il serait quand même complètement malhonnête intellectuellement de se dire qu'il n'y a pas une récession de facto. T'as l'un des plus gros fournisseurs de blé de la planète par lequel transite le gaz de l'un des plus gros fournisseurs de gaz pour aller vers la cinquième économie mondiale qui est en guerre.
Ouais.
Bon, ça forcément, c'est un impact sur l'économie. Sinon, tu vois, je m'appelle plus Ben Marel. Tu vois, il y a un truc, c'est normal, c'est logique. Et donc ça, forcément, après, c'est pas juste le fait de se dire on se flagelle. Non, bien sûr que dans l'économie, la récession, il y a besoin de confiance. Donc, ça affecte d'autant plus la confiance. Une guerre, tu peux pas te dire, ouais, j'y vais, l'affaire au fusil, c'est super. Non, tu dis, ah bon, c'est la guerre. Donc, la confiance est affectée, c'est sûr. Mais c'est pas juste une crise de confiance. Là, on a un événement majeur, tu vois, aux portes de l'Europe qui fait que toute l'économie, elle est chamboulée, c'est sûr.
Bon, à vous entendre, ça sent pas bon pour l'année prochaine. En tout cas, ici, dans la Silicon Valley, les startups, elles ont énormément réagi. Elles se sont énormément restructurées. Il y a eu énormément de layoffs et ils vont continuer ces layoffs, certainement dans les mois qui viennent. Pas là, d'ici la fin de l'année, là, le travail a été fait. Mais les startups, je le sais, elles ont fait des layoffs et elles attendent aussi qu'il y ait des gens qui partent naturellement. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe après ces layoffs. On attend aussi qu'il y ait des gens qui, parce que des gens se retrouvent avec plus de boulot, ça les fait chier. Et donc, il y en a qui démissionnent. Ça se passe déjà, c'est déjà le cas, notamment chez Twitter. Et s'il n'y a pas de départ naturel suffisant avant la fin du premier trimestre de 2023, il y aura une nouvelle vague de layoffs à la fin de 2023. J'ai l'impression que les startups de la Silicon Valley ont bien compris ça et ont fait le boulot et sont en train de serrer les boulons partout. J'ai l'impression que c'est moins le cas quand je discute, mais c'est encore une fois, là, c'est vraiment du doigt tendu et de la prise de température. J'ai pas de stats là-dessus. Mais Pierre, moi, en discutant avec des start-upers et des entrepreneurs en Europe et en France en particulier, j'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience de ouais, en gros c'est difficile, mais tout va bien, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience très très forte en fait de la situation et surtout de ce qui se présente l'année prochaine.
Bah, je pense que c'est très français, si tu veux. On est quand même un État très protégé, où l'État protège beaucoup à plein de niveaux, et donc c'est un espèce de ressort qui fait que on se sent toujours pas forcément totalement dans la crise. On se dit l'État va être là pour intervenir, alors que les Américains, ils savent qu'il n'y a pas de filet finalement, et quand tu tombes, tu meurs. Et donc en fait, les Américains, comme ils savent qu'il n'y a pas de filet, ils ont des réactions qui sont rapides et fortes dans des situations comme celle-là, et nous, on prend le temps de réfléchir en se disant finalement peut-être que ça va pas être ce que je pense que ça va être. Donc je pense que la prise de conscience, les gens sont pas idiots, hein, donc les gens sont conscients qu'il y a des choses qui se passent qui peuvent dégénérer, devenir très graves, mais il y a quand même cette espèce de lenteur liée au pays qui fait que les gens réagissent, de mon point de vue, pas assez rapidement et finalement se confortent en disant finalement ça pourrait passer à côté finalement. Or je pense que ça passera pas à côté.
Ben, tu vois une différence, toi, entre la réaction, vous êtes sur plusieurs zones, hein, vous êtes à Londres, vous êtes en France, à Barcelone. Bon, vous avez investi aussi chez Uncut, dans quelques boîtes aussi aux États-Unis, disclaimer, Brega est investisseur dans ma startup. Tu constates une différence de comportement entre les entrepreneurs sur ces différentes zones?
Ouais, je rejoins ce que disait Pierre, et à double titre en plus. Ça va faire un lien avec l'introduction, mais il y a aussi le sujet de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un double facteur. Tu as l'aspect culturel aux États-Unis qui, effectivement, tu vois, cette logique aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Là où, effectivement, dans des économies comme la France, un peu plus protectionnistes, un peu plus protégées, les gens comptent toujours un peu sur l'État pour les sauver. Et puis, il y a l'histoire de la Silicon Valley. Donc, si on regarde l'économie de la tech uniquement, tu vois, l'histoire de la Silicon Valley, c'est des multiples crises, des entrepreneurs expérimentés, des cadres expérimentés, des gens qui ont vécu ça à plusieurs reprises, donc ils savent aussi comment anticiper, se préparer. On a des écosystèmes en Europe qui sont moins matures parce qu'ils ont éclos plus récemment. Et tu vois, si tu regardes la constitution de l'écosystème tech européen aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont passés à travers la crise GFC en 2008-2009. Et alors celle de 2000, j'en parle même pas, il y en a très très peu. Donc comme tu les comptes sur une doigt de la main, tu peux pas diffuser autant d'expériences. Donc c'est vrai que tu te rends compte qu'aujourd'hui, l'écosystème tech européen, il est pas réveillé, quoi.
Mais il y a un entrepreneur qui me disait cette semaine, il me disait, il était de passage, il est de la Silicon Valley, il est français, il est de passage en ce moment à Paris, il était à Station F, il me dit, mais j'hallucine. C'est la fête à Neuneu, quoi. C'est-à-dire que il y a il me dit là aujourd'hui, il y a une grande soirée, il y a L'Oréal, alors tout le monde est là à se congratuler avec des marques et des boîtes du CAC 40. On va aller bouffer des pizzas à la Felicita, machin, rien. Il me dit, moi j'hallucine, j'arrive de la Silicon Valley où on est tous en train de se dire c'est compliqué et comment dire l'ambiance est pas du tout à la fête et j'arrive à Station F. Alors là, c'est la récré, quoi. J'ai l'impression d'être arrivé à Euro Disney. C'est ce que me disait cet entrepreneur.
Ouais, bah, je peux comprendre le sentiment. C'est vrai que il y a toujours eu et il y a toujours un petit retard à l'allumage, un retard à la réalisation de la situation entre les US et l'Europe. La vague, elle arrive en plusieurs temps, tu vois. Donc c'est vrai. Et puis je te disais, voilà, il y a cette histoire d'historique et d'expérience qui fait que oui, aujourd'hui, on a l'impression. Les gens n'ont pas pris complètement la mesure de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer en 2023, et puis des réactions en chaîne, tu vois.
Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est un truc que je m'étais noté. C'est vrai que, en fait, ça fait 14 années qu'on n'a pas vécu une crise comme celle-là. La dernière remonte à certainement 2007 et 2008. Et donc, la génération d'entrepreneurs qu'on a aujourd'hui aux commandes des startups a toujours vécu dans un contexte d'euphorie, quelque part, avec un accès au capital qui était beaucoup plus facile qu'il n'est aujourd'hui ou qu'il ne va être demain. Et c'est vrai du côté des entrepreneurs. Mais Ben, c'est aussi vrai du côté des VC, hein. C'est-à-dire que dans les équipes des VC, notamment chez les nouveaux VC, t'as plein de partenaires et de juniors qui tout d'un coup sont comme des lapins dans les phares, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent merde, je connais pas, moi, je sais pas comment on fait dans une période de crise.
Ah ouais, bien sûr, c'est là qu'on parle de maturité écosystémique, tu vois. C'est ouais, t'as un bon nombre d'acteurs de l'écosystème, et c'est bien pour ça que je parle d'acteurs.
Mais c'est vrai aussi dans la Silicon Valley, parce que les vieux de la Silicon Valley, les partenaires dans les fonds de la Silicon Valley, ils ont fait tellement de thunes qu'aujourd'hui ils ont plus envie de bosser. Ils sont toujours là, mais en fait ils foutent plus rien, quoi, en fait, hein. Ils sont plus à Hawaï ou ailleurs. Et on a aux commandes même des fonds très stars de la Silicon Valley, des partenaires très très juniors, hein, Pierre, qui ont 30 piges ou des trucs comme ça, et qui n'ont jamais connu finalement une période de crise comme celle qui s'annonce.
Ah ouais, c'est sûr, on est entièrement en phase. Et ça, c'est problématique parce que t'anticipes moins bien et tu réagis moins bien. Enfin, l'expérience, elle te permet ça. Elle te permet, un, d'anticiper et deux, de mieux réagir. Et là, t'as un double facteur. Or, on sait très bien que développer une startup, c'est une course de vitesse, mais c'est dans les deux sens. Et en fait, quand tu vas très vite, mais que tu vas très vite dans un mur, t'as intérêt à anticiper et à réagir vite. Or, on a, d'un point de vue écosystémique, et c'est pour ça que le sujet, il n'est pas que côté startup, il est côté tout l'écosystème. Moi, chez les VC, chez les investisseurs, tu as plein de gens qui n'ont jamais vu, qui ont toujours dit j'investis sur le FOMO, la valo, je m'en fous, le mec d'après paiera plus cher. Enfin, tu vois, des comportements qui vont bien dans un monde où c'est la fête du string, quoi. Mais là, ce n'est pas le cas.
Et les accélérateurs, hein, Pierre, hein, tous ces gens, toutes ces boîtes qui soi-disant accompagnent les startups, c'est facile d'accompagner quand la route est balisée et quand il y a un grand soleil et qu'il pleut pas et que c'est l'autoroute et qu'on peut appuyer sur l'accélérateur, mais quand tout d'un coup le brouillard tombe, il pleut des cordes et que il y a un énorme bouchon en face, comment elles vont faire là aussi il y a pas d'expérience hein.
Je pense qu'on met pas les gens devant les réalités. Je vous prends un exemple tout bête. Le prix de l'électricité. L'électricité a largement augmenté pour les questions, pour les raisons qu'on a évoquées. En France, qu'est-ce qui se passe? L'État dit, je vous protège. Et donc, vous allez avoir une petite augmentation de votre note électrique et faites un effort. Donc, les gens se disent, bon, bah, j'ai l'électricité comme j'avais avant. En Angleterre ou ailleurs, le prix de l'électricité a été multiplié par 6 ou par 7. Moi, j'ai des copains en Angleterre qui chauffent 4 heures par jour. Donc, quand tu chauffes ta maison 4 heures par jour, tu prends conscience des choses. T'as froid aux mains. Tu vois? Et quand t'es en France, t'as chaud aux mains, donc tu te dis, bah, tout va bien. C'est là que ça va pas. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, pour prendre conscience de ce qui se passe, il faut le vivre. Et si on te cache tout ça, en levant de l'argent, l'État lève plein d'argent pour protéger tous ces gens-là, c'est formidable. Moi, je suis d'accord sur le côté social de l'État, mais à un moment donné, il faut aussi que la douleur, elle soit aussi chez les gens.
Ouais, t'as une approche un peu nietzschienne en disant qu'il faut il faut percevoir une forme de cette douleur-là, qu'en fait, pour adapter son comportement et sa stratégie.
C'est pareil pour la planète, Carlos.
Donc ils ont pas assez mal, quoi, en fait, c'est ça?
Oui, exactement. Si on veut faire des efforts pour la planète, il faut commencer à le sentir, quoi. Il faut que ça fasse un peu mal. Sinon, on va juste regarder ça en disant, c'est théorique. C'est pas théorique, le réchauffement climatique. Et donc, si on veut sentir les choses, il faut qu'à un moment donné, ça fasse un peu mal quelque part. Et ça, on ne le vit pas ici, parce que l'État protège. Voilà.
Question, on dit souvent, et ça c'est un truc qu'on entend régulièrement, que c'est dans ces périodes de crise, dans ces moments difficiles, que les meilleures entreprises apparaissent. C'est vrai, quand on regarde, c'est vrai que, par exemple, Google s'est créé en 2001, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, et a levé d'ailleurs de l'argent en pleine post-bulle Internet, Uber en 2007, 2008, etc. Mais est-ce que c'est pas finalement les arbres qui cachent la forêt? Est-ce que c'est vraiment le cas? Quel est ton point de vue là-dessus, Ben? Est-ce que c'est finalement juste quelques exemples merveilleux qu'on prend pour dire que tout n'est pas noir, mais en fait la réalité c'est que non, ça faisait... Ouais, Salesforce également, un fonds qui s'est créé en 2001 aussi, quoi, qui a survécu la tempête. Même si Salesforce d'ailleurs a failli crever, quoi, au début de Salesforce, ça n'a pas été facile.
Ouais, il y a plein des boîtes comme ça qui ont failli crever. Tu vois, Tesla en est une. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de. Tu sais, c'est toujours un peu, oui, c'est un peu le contre-exemple parfait, quoi. C'est un peu comme les mecs qui te disent, ça ne sert à rien de faire des études. Zuckerberg, il a arrêté avant la fin. Ouais, ok, d'accord, bon, t'as un exemple.
Oui, mais en fait, il était à Harvard quand même.
Il était à Harvard, et deux, 95% des autres CEO de boîtes énormes ont fait des études. Donc, ok, t'as un exemple d'un mec qui a fait. À l'inverse, si tu regardes tous les mecs qui ont drop out et que tu regardes leur succès, il n'est pas non plus génial de l'autre côté. Donc, c'est un peu pareil, tu vois. Je pense qu'il y a des très belles boîtes qui sont nées dans des périodes qui étaient des périodes fast, et c'est pas impossible, bien évidemment. C'est vrai que ces moments de tension économique, il t'oblige à plusieurs choses. Il t'oblige déjà à être créatif. Tu vois, pourquoi le cinéma espagnol après la dictature? Pourquoi le cinéma yougoslave après la dictature? Ouais, quand t'es sous tension, tu vois, t'es obligé d'être un peu créatif. T'es obligé de te dire, putain, tu vois, on n'a pas de sous, mais on a des idées, quoi. Donc tu trouves des trucs et en plus, t'es confronté à des problèmes. Et on sait tous, quand t'es confronté à un problème, bah, tu trouves des solutions et tu trouves des solutions qui sont plutôt pérennes et qui sont intelligentes. Donc ça, c'est un premier sujet, je pense.
Et puis les périodes de crise aussi, Ben, pour aller dans ton sens, elles créent des problèmes. Des problèmes qui sont nouveaux. Et donc, ces problèmes, c'est aussi des nouvelles opportunités pour les entrepreneurs.
Exactement. Ces périodes de crise, elles créent des problèmes. Donc tu vois, tu as des problèmes. Donc, tu es toi-même en tension. Et en plus, tu as des problèmes qui naissent autour de toi. Donc, ça t'oblige à repenser le monde et à réfléchir à ces sujets. Et après, tu as une autre composante qui est forte, c'est que tu augmentes le niveau de compétition. Et ça, on le sait tous. Tu vois, si on est tous un peu compétiteurs, moi, je fais beaucoup de sport. Bah, t'es meilleur quand t'es poussé par le game, quoi, tu vois. Et
t'as une compétition supplémentaire qui est le contexte et l'environnement qui devient un nouveau élément de
ouais. Exactement, tu vois, quand il pleut de l'argent et que tout le monde est financé, bon, bah, en fait tu te démènes pas trop, quoi. Ça se fait un peu rare et que il y a qu'un seul dossier qui passe sur 10 et pas 9 sur 10, bah tu dois te donner, you need to give your best, et ça quelque part aussi ça amène les entrepreneurs à être meilleurs. C'est pas facile. facile, c'est pas très agréable, mais c'est aussi la réalisation que, bah, tu vois, l'entrepreneuriat sur un mode de financement start-up, parce qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat, mais celui-là en particulier, c'est l'expression même du capitalisme. C'est putain, il faut que tu gagnes. Et tous les autres vont mourir, tu vois. Donc en fait, il faut que tu gagnes. Donc et ça fait prendre conscience que bah ouais, le monde startup coolos, les baby foot, les pizzas et tout, bon, c'est sympa, mais c'est fondamentalement c'est pas ça. Fondamentalement, tu dois réussir et tu sais qu'il va y avoir de la casse. Donc ça va être difficile et l'accès au capital il est plus ténu. Ça t'oblige à give your best. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est important.
Pierre, moi, sur Diaspora, qui est j'investis sur du super early stage. Moi, j'ai constaté que effectivement, en ce moment, la qualité des dossiers et la qualité des entrepreneurs, elle est bien meilleure qu'elle n'était il y a quelques mois. Créer une start-up aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il faut avoir de véritables convictions, ou on est une tête brûlée et on n'a pas compris ce qui se passait, ou alors non, c'est qu'on est fondamentalement habité par le sujet qui est de la start-up.
Moi, je pense que fondamentalement, les bonnes choses viennent de la contrainte. Mmh. Et que s'il n'y a pas de contrainte, mais finalement, on se laisse un peu aller et on donne pas son best, comme disait Ben, et ça marche pas. Et donc, les dossiers que t'as aujourd'hui, c'est des gens qui ont le courage de se lancer dans un univers un peu muté, un peu compliqué, et qui ont probablement beaucoup plus réfléchi qu'on ne réfléchissait il y a un an à ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et donc, ça te paraît être plus épais, plus raisonné, et donc de meilleurs dossiers. D'autre part, les wannabe entrepreneurs qui étaient pas très sûrs de vouloir le faire ou pas, ils le font pas. Donc les gens qui se lancent aujourd'hui, c'est les vrais entrepreneurs, c'est les gens qui ont un vrai truc en tête et qui, indépendamment de ce qui se passe, contre vents et marées, prennent leur bateau et traversent l'Atlantique. Donc c'est un peu logique que tu vois moins de dossiers et que les dossiers soient meilleurs. Mais moi, je suis convaincu que la contrainte, tu sais ce qu'on disait chez The Refiners, la near-death experience, quand les gens sont au bord de la mort, c'est là où tu te poses les bonnes questions. Et donc quand tu es dans une tempête et que tu navigues sur un bateau, bah, tu te poses les bonnes questions. Tu n'étais pas en train de babouiller en disant tiens, je vais faire tel truc, tel machin. Non, tu regardes ce qu'il faut pour pas mourir. Donc c'est ça qui est important, et je pense que la contrainte qu'on vit va faire naître des choses intéressantes.
Bon, ok, c'est clair en vous écoutant, on est rentré dans une période difficile. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission et qu'on donne quelques conseils en tant que Gorille Cendré de la tech à nos startups pour quelles sont les décisions à prendre, quelle est la bonne stratégie à adopter si effectivement on est dans une récession ou qu'on rentre dans une récession en 2023. Alors vous êtes dans Silicon Carnet cette semaine, on parle de la récession qui s'annonce pour 2023. Les prochains mois s'annoncent très très difficiles pour les startups. Et je suis en compagnie de Pierre Gobil, le professeur qui est avec nous, et Ben Marel qui est General Partner chez Brega. Et on va parler de maintenant dans cette deuxième partie de quelques conseils. On va essayer de vous donner quelques conseils pour traverser cette période de crise en tant que startupper. Si vous appréciez cet épisode, vous pouvez acheter le NFT de l'émission. C'est une façon original de manifester votre intérêt et aussi de rejoindre la communauté des fans de Silicon Carnet. N'hésitez pas non plus à partager ces épisodes à travers vos réseaux sociaux. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors les gars, on continue la conversation. Question pour toi, Pierre. Quelles sont les premières questions à se poser quand on rentre dans des eaux tumultueuses? Quand on regarde sa start-up, c'est quoi la première question à se poser?
Tu peux avoir mon jingle ou pas?
Ah, bien sûr. Attends, bouge pas.
Merci, c'est quand même bon.
Voilà, et professeur, donc il va venir avec ses points. Je suppose qu'en fait, t'as combien de points là cette semaine, Pierre?
Ce que je veux dire là-dessus, c'est moi, ma position, c'est la suivante. C'est que ce qui se passe, c'est que toutes les certitudes qu'on avait sont en train de changer. Le monde est en mutation, le marché est en mutation, les clients sont en mutation, la concurrence est en mutation, tout est en train de changer. Donc moi, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est la chose suivante. C'est de prendre des co-founders et de créer une SWAT team. qui a pour objet, en fait, eh ben d'essayer d'ouvrir grandes les oreilles pour comprendre ce qui se passe et en interne et en externe, et à partir de ça, de prendre des décisions hyper rapidement en fonction de ce qui se passe. Alors,
Attends, je t'arrête là, Pierre. Ce que tu es en train de dire, c'est que vous ne pouvez plus considérer que ce qui était vrai avant sera toujours vrai aujourd'hui ou demain. Donc en gros, il faut repartir d'une feuille blanche, c'est ça ce que tu es en train de dire ?
Bah, tout a changé, tu sais, tu as des boîtes qui avaient des product market fit qui ne les ont plus.
Ouais,
c'est aussi
vrai.
Violent que ça, donc c'est des trucs, évidemment tout a changé, donc il faut tout changer. Donc comment on fait ? Parce que ça c'est bien beau de le dire, mais comment on fait ? Je pense qu'il faut se mettre sur un bout de table et réimaginer toutes les hypothèses qui sous-tendent le projet qu'on développe.
On va partir de zéro alors, c'est à se reposer toutes les questions stratégiques.
On pose toutes les questions, et ces questions elles ont trait à plein de sujets. D'accord. Et on essaye avec cette SWAT team, de collecter de la donnée en temps réel pour comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, une idée toute bête. Moi, je créerais une communauté avec mes clients. Tu vois, parce que les clients, ils sont sur le marché. Et donc, je dirais, OK, je crée une communauté, je sais pas comment, je fais un Slack, je fais un machin, et je me mets à écouter mes clients beaucoup plus qu'avant, parce que je veux comprendre ce qui se passe. Tu vois, donc c'est redéfinir toutes les hypothèses risquées sur lesquelles on est aujourd'hui, et ça bouge tout le temps, et c'est collecter encore plus de données pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'avec cette lucidité sur les hypothèses importantes et sur la data, on est capable de prendre des décisions. Et la grande chose qui est importante à faire dans un temps de crise, c'est de prendre plein de décisions. C'est de faire plein de micro-pivots presque tous les jours. Parce que si on change pas, c'est sûr qu'on va dans le mur.
Ben, t'es d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut se remettre à l'atelier, repenser tout depuis le départ ? Ce qui, c'est brutal hein, quand même.
Ouais, c'est brutal et à la fois... c'est sain de se reposer la question de remettre en question les acquis. Je pense que c'est toujours sain, tu vois, quoi qu'il arrive. C'est toujours sain dans n'importe quel business. Il y a des choses qui te semblent acquises. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans le business. Et en fait, finalement, tu dois remettre en question ça. Dire, est-ce que véritablement, cet axiome de base, est-ce que c'est l'axiome, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ce sur quoi je dois construire mon business, ou alors est-ce qu'il faut le repenser et repartir d'une hypothèse différente? Et en temps de crise, comme les choses bougent et que tu ne sais pas exactement où elles vont aller, forcément, il faut repenser ça et il faut le repenser de manière itérative en faisant des sense checks. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est la partie stratégique, tu vois. C'est la partie vraiment brain power. Après, t'es aussi tenu par l'opérationnel. Et je pense que l'opérationnel, lui, il te ramène à la réalité du terrain. Cash is king. Et tu vois, on le dit souvent, ça fait rigoler. Non, mais ça, c'est factuel. T'es en général, quand t'es entrepreneur dans la tech, au début, en tout cas, t'es pas rentable. Donc, comme t'es pas rentable, tu pisses du cash et tu le pisses plus ou moins vite. Donc, la question, c'est combien il t'en reste? Et est-ce que tu peux faire en sorte que ce temps-là soit suffisamment long pour sortir de la crise sans avoir à te couper une jambe.
Pour lever de l'argent.
C'est lever de l'argent et ou te couper une jambe. Parce que si c'est pour, tu vois, détruire ton business, bon, bah, en fait, t'as tout perdu aussi. Donc, et cette fine ligne, elle est pas facile. Donc, faut se poser les questions fondamentales de, OK, quel est dans le contexte, dans le nouveau contexte, en fonction des hypothèses qu'on avait prises, quelles sont celles qui bougent, quel est fondamentalement notre core business? Et qu'est-ce qui est superflu? Et ces crises-là donnent parfois des lieux à des boîtes qui changent complètement de business. Parce qu'en fait, elles se rendent compte que, en fait, ce qui fonctionne, c'est une partie du produit auquel elles n'avaient pas pensé. C'est ça dont leurs clients ont besoin. Je rejoins Pierre parce qu'il faut écouter ce dont les gens ont besoin. Et c'est assez fondamental. Il faut pas avoir peur de couper, quoi. Parce que si ton cash, il est trop juste, t'auras pas de chance. T'auras pas d'option.
Mais j'entends ce que vous dites, écoutez vos clients. Il y a beaucoup de startups qui sont en phase de démarrage et qui n'ont pas encore de clients, qui n'ont pas encore d'utilisateurs, qui font encore des projections sur des choses et qui se disent très bien, mais moi j'étais parti avec une conviction. Et Paul Graham, il pose cette question, il dit effectivement, il faut combien de cash est-ce que vous avez ? Et en supposant que vos dépenses restent constantes et que la croissance de vos revenus, si tant est qu'il y en ait, reste ce qu'elle a été au cours des derniers mois, est-ce que vous allez devenir rentable avec l'argent qui vous reste ? Mais quand tu poses cette question-là à tes startups, surtout en phase de démarrage, tout le monde est mort par défaut, quoi, Pierre. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça va être très difficile d'aller chercher du cash. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? On arrête ?
Non, mais t'as raison. De toute façon, le cash, c'est la question numéro un. Il y a deux typologies de startups. Il y a celles qui monétisent et celles qui ne monétisent pas.
90% des startups monétisent pas ou mal.
Alors, parlons de celles qui ne monétisent pas, si tu veux. Pour moi, okay. Effectivement, ils ont un certain nombre de sous en banque et ils ont un mur du cash qui a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an à définir.
Ouais.
Pour moi, si le mur du cash est, on va dire, à moins de 1 an, il y a urgence absolue.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, posons-nous ces questions-là. C'est bien, on va se poser la question. J'ai moins d'1 an de cash, j'ai moins de 2 ans de cash et j'ai plus de 2 ans de cash. Alors, j'ai moins d'1 an de cash, qu'est-ce que je fais?
Ben, il faut essayer de...
C'est mon cas.
Il faut essayer de...
Ça m'intéresse comme question, c'est mon cas.
Alors, en fait. Il faut essayer d'étendre sa runway. Donc, t'as deux méthodes. Hein. Une boîte, c'est fait pour faire du profit.
De vendre de la drogue.
Le profit, ça, tu le fais pas. C'est le profit, c'est non. Du revenu moins les coûts, tout bêtement. Donc, soit tu augmentes les revenus, ce qui va augmenter ton truc, soit tu réduis les coûts. C'est les deux options qui sont à ta disposition.
Donc, si tu me... Mais ton produit est pas terminé.
Si tu
n'as pas fini.
Ça, donc, la seule chose que tu puisses faire, c'est de réduire les coûts.
Ouais.
D'accord? Donc, réduire les coûts, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, d'abord, regarder les grandes masses dans ta startup. Donc,
les c'est du salaire. Dans les startups, c'est du salaire, c'est des salariés qu'on a eu du mal énormément à recruter. Donc, souvent, les startupeurs, ils sont là. Ouais, mais j'ai une équipe, elle est pas très grande. Mais en même temps, j'ai galéré tellement pour les avoir et maintenant je les ai. Il faut que je réduise les coûts. Qui est-ce que je vire, quoi, en fait?
T'as pas
mais
le choix.
Qui est-ce que je vire?
Ouais. T'as pas le choix. Donc, ce que tu te poses comme question, c'est qui reste et qui part? Aussi brutal que ça puisse paraître, mais t'as pas le choix. Et deuxième question, c'est parmi les gens qui restent, qu'est-ce que tu leur fais faire? Et ça peut changer. C'est-à-dire qu'en fait, ce pourquoi ils ont été embauchés va changer avec
la crise.
Et donc, tu te dis, OK, je garde ces compétences-là, mais on va les redistribuer ailleurs. Parce que c'est ça qui est important pour aller vers le chemin peut-être de la monétisation ou etc. Mais tu n'as pas le choix. Donc, pour moi, si tu ne fais pas de, si tu ne monétises pas, eh ben, tu coupes les coûts violemment.
Un maximum. Et il faut savoir le faire. Et souvent, je parlais encore avec un entrepreneur hier qui me disait, mais si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus vite, parce qu'il l'a fait un peu tardivement. Et en fait, ça a été super salutaire. Il y a des fois, Ben, ce sentiment de se dire, oh là là, si je coupe la moitié de mes effectifs, on va pouvoir rien faire. Et en fait, non, c'est pas le cas. Si tu coupes les bonnes personnes, tu te rends compte que c'est pas vrai, quoi. En fait, que non, la terre ne s'écroule pas, que tout ne disparaît pas et que tu continues à avancer. Tu es d'accord avec ça? Il faut diviser ses coûts au maximum.
Je suis complètement d'accord. En fait, on oublie qu'on a réussi à faire avec moins. Enfin, la frugalité, c'est quelque chose d'hyper important. En fait, quand t'es une startup, on est toujours poussé dynamiquement par l'ultra-croissance. Donc, on dit, ah putain, on est 10, on est 20, on est 30, on est 50, on est 100. Mais t'oublies que t'avais été 30. Et donc, tu savais faire des choses à 30. Tu savais le faire. Tu faisais différemment, tu priorisais mieux. Cette réflexion, quand t'en es à cette taille-là, elle est nécessaire de se dire, bon, attendez, les gars, on va se reposer, là. Attends, on a réussi à opérer à moins. On a fait des choix, on faisait moins de choses. Donc, on va recouper, on va regarder qu'est-ce qui est fondamental pour notre survie aujourd'hui et demain, bien sûr. Parce que si c'est survivre pour survivre, en fait, t'es un zombie, quoi.
Un Walking Dead.
Ouais, c'est cool, tu vois. Ouais, ça change pas, ça fait pas la rue Michel. Donc, il faut quand même se dire, OK, je le fais parce que je vois, j'ai stratégiquement une vision qui me permet de me dire que je ressors du tunnel avec quelque chose de positif. Et c'est vrai qu'on oublie. On parlait de l'apprentissage des entrepreneurs. Déjà, c'est dur d'apprendre à croître vite, mais alors apprendre à couper, on le fait pas, ou très peu, et très mal, du coup. Donc, cet exercice, il est ultra important. Après, il y a quand même ce sujet de, il faut faire rentrer du cash. Enfin, là, je rejoins le point de Pierre, et le cash, c'est des clients et ou de l'argent extérieur.
Ouais, mais les investisseurs qui ont investi chez toi, il y a encore quelques mois, te disaient, oh, on est là pour t'aider, machin, ta, 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 ta. Aujourd'hui, tu vas les voir. Et il te dit, ah ouais, mais tu sais, en ce moment, c'est difficile, compte pas sur moi, quoi, grosso modo. Donc, comment tu gères ça?
C'est
une question d'entrepreneur. Hein. J'ai plein d'entrepreneurs, ils se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire, là, quoi, en fait. C'est-à-dire de dire, j'ai l'impression que mes VC, quand tout va bien, c'est super, quoi, en fait. Et puis, quand tout va mal, je vais les voir, à part me donner me réconforter en me disant tout va bien, machin, etc. Mais je peux pas compter sur eux. Il y a plein de mecs qui me disent ça, quoi, en fait. Ouais, ils sont pas là.
Je pense que c'est... Comme toujours, tu vois, la relation entrepreneur-investisseur, elle doit être basée sur la confiance, en fait. Si tu vas voir des gens qui sont à ton capital, bon, déjà, si tu leur parles pas souvent, évidemment, les mecs, ils te voient arriver.
Ouais, t'es dans la merde.
Comme un homme d'une figure. Attends, le mec, il vient me tirer de l'argent, donc sympa, mais il vient me faire les poches. Déjà, c'est pas très sain. Donc, c'est là aussi où t'apprends avec l'expérience qu'entretenir une relation avec tes investisseurs, c'est important. Bon. Et ensuite, faut aller les voir avec un plan crédible. Si tu vas la gueule enfarinée en disant « Guys, j'ai besoin de 10 bâtons parce que on va continuer comme en 40 », bah, c'est sûr que tu vas recevoir un accueil qui est plutôt froid. Si t'as, tu vois, pris conscience de la situation, préparé un plan qui make sense et tu leur donnes une direction qui semble crédible et que tu leur dis, bah voilà, en revanche, j'ai quand même besoin que, d'une rallonge pour passer ce cap-là, t'as quand même plein d'investisseurs qui sont à l'écoute de ça. Ils comprennent que c'est quand même quelque chose d'entendable. Pour autant que, ouais, y ait des efforts, il y ait de la crédibilité, il y ait une remise en question et il y a un plan proposé qui semble avoir du sens. Après, réussis pas, mais au moins, tu te dis pas, ah ben, on continue comme en 40 et j'ai un budget Deliveroo de 100 000 balles par mois, tu vois.
Mais est-ce que, question brute des décoffrages, Ben, est-ce que c'est un problème pour un investisseur de se dire, la boîte va de toute façon mourir? Est-ce que finalement, c'est dire, ouais, bon, bah, ça meurt, c'est pas grave, quoi. J'en ai, de toute façon, j'ai un portefeuille, je sais que l'échec est, parce que l'échec pour l'entrepreneur, il est dramatique. Pour l'investisseur, il n'y a pas la même relation, en fait, à l'échec, quoi. C'est ça aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr que l'investisseur, il réfléchit un peu plus
en portefeuille.
En portfolio, bien sûr. Il se dit, bon, s'il faut que je choisisse, exactement comme l'entrepreneur, je reprends l'exemple de Pierre, il va choisir dans ses équipes. Il va dire, bon, si je dois choisir, les low performers, c'est ceux que je vire en premier. Ça, c'est un raisonnement et c'est un réflexe qui est naturel. Donc, l'investisseur, il va avoir un peu cette tendance-là, c'est sûr. Tu vois, c'est humain. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut arriver à le faire entendre que, justement, t'es pas un low performer, quoi. Et puis, je vais te dire un truc. Je reviens sur mon point de tout à l'heure de la violence et le jusque-boutisme du modèle de financement start-up dans la création du capitalisme, dans l'application du capitalisme, pardon. C'est même mieux. En fait, si t'es un fondeur qui travaille sur un sujet qui est un sujet de merde, t'as plutôt intérêt à quitter ce sujet tôt pour aller faire autre chose. Et en fait, les moments, tu vois, où t'as des économies ou des écosystèmes qui sont biberonnés à la subvention, au cash, au machin, ça fait des boîtes qui sont un peu des Walking Dead, tu vois, qui elles vivotent, elles avancent.
Ou qui se concentrent sur des problèmes qui n'en sont pas, quoi, c'est ça.
Qui n'en sont pas, une exécution qui n'est pas la bonne, tu vois. Ce wake-up call, il est sain aussi, même en tant que founder, parce que ta vie d'entrepreneur, elle est longue, et on sait tous qu'on a plusieurs expériences entrepreneuriales, et que si ce n'est pas celle-là la bonne, il y en aura d'autres. Et donc, savoir couper à un moment aussi, ce n'est pas malsain. Donc, c'est très dur, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution et que c'est facile. C'est évidemment très dur.
Il faut savoir dire, Pierre, aux entrepreneurs, c'est le moment d'arrêter dans ces périodes de récession et de crise.
Je pense qu'il faut tenter des trucs. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pris qu'une solution qui était de dire on coupe les coûts, mais il y a d'autres solutions. D'abord, on peut aussi baisser les salaires de tout le monde. C'est une solution.
Mais ça aussi, c'est baisser les coûts.
On peut arrêter
de
prendre des bureaux, etc., etc. On peut faire ça. Ensuite, on peut accélérer le chemin vers la monétisation. C'est-à-dire que on peut imaginer un produit moins ambitieux, mais monétisable. Un petit truc qui ait de la valeur, qu'on puisse monétiser. Et le fait d'accélérer son go-to-market a pour moi une valeur qui est de se rendre compte hyper rapidement si ce qu'on fait a du sens ou n'a pas de sens. Et donc, pour répondre à ta question, si on a accéléré la monétisation, on a sorti un truc dont on pensait qu'il avait de la valeur, il se passe rien, alors là, on arrête.
Ouais,
je suis entièrement d'accord. C'est en fait, évidemment, c'est la phase ultime et c'est la phase que, tu vois, on redoute tous et qu'on n'a pas envie d'atteindre. Mais à un moment, il y a une fine ligne entre résilience et obstination.
Et donc,
il faut être résilient, c'est clé, et on l'a tous vécu. Tu prends des baffes, tu prends des pains, et tu sais que ça va. Il faut vraiment résister à ça. Mais à un moment, il faut quand même prendre le recul de se dire, bon, ok, mon timing est pas bon. Je suis pas au bon endroit au bon moment. J'ai essayé par tous les moyens d'essayer de vendre mon produit. Il y a personne qui veut l'acheter. J'ai un problème de fond. Je vais pas le résoudre sans cash. Faut être raisonnable, tu vois. Mais c'est des choix qui sont très difficiles. Et donc, cette fine ligne, elle est importante. Il y a des gens qui abandonnent trop vite. Et il y a des gens qui s'obstinent trop. Et je pense que là, je rejoins Pierre à 200%. C'est, faut tout tenter. Et à un moment, savoir lâcher si jamais ça marche pas. En revanche, en tentant tout, il y a quand même plein d'options. Et tu vois, souvent, les gens se rendent pas compte. Il y a des boîtes qui font des pivots. Il y a des boîtes qui font du consulting pendant des mois avant de repartir. Tu vois, t'as des équipes, elles savent faire des trucs. Tu peux imaginer rentrer du chiffre d'affaires. C'est là où une des fonctions premières d'un entrepreneur et d'un CEO, c'est d'être un bon vendeur, tu vois. Donc, en fait, tu dois pouvoir vendre des trucs. Et tu les fais en marchant, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a aussi, il faut, et ça c'est très important du côté de l'entrepreneur, que ses investisseurs lui expliquent aussi que c'est ok qu'il peut arrêter. à un moment. C'est vraiment effectivement la décision finale, mais tu sais, c'est un peu comme quand les gens luttent contre des maladies, des graves maladies, quoi, tu vois, et qui sont, on dit souvent aux malades, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, mais des fois la maladie, elle est trop, trop forte. Et ce que finalement le malade a besoin d'entendre, c'est ok, tu t'es bien battu. OK, et maintenant tu peux partir, quoi, en fait, quoi, tu vois. Et je sais que pour avoir été confronté à ça dans ma vie, c'est important aussi d'expliquer ça, et souvent les entrepreneurs, on leur dit il faut te battre, mais on leur dit rarement tu t'es bien battu, maintenant c'est bon, tu peux lâcher, c'est pas grave. Dans la Silicon Valley, il y a ce recyclage des morts assez régulier, et en France, même si ça s'améliore, est-ce qu'on dit ça aux startups ? J'ai l'impression qu'elles durent très longtemps, les startups, Pierre, en France.
Écoute, moi, j'ai une startup qui a fait l'académie, qui, à l'issue de l'académie, a décidé d'arrêter.
Ouais, c'est super, c'est génial. Et si l'académie sert à ça, c'est bien.
Super décision. De mon point de vue, c'était une très bonne décision. Je pense qu'effectivement, en France, on a tendance à faire survivre les morts vivants,
ouais,
avec de la subvention, avec tout ça. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus partisan dans le monde du startup, de la startup, d'un truc un peu plus dur, et un peu plus en réalité avec le marché. Donc on aurait moins de morts vivants, on aurait peut-être plus de gens résilients, et ça serait pas la même dynamique. Maintenant, il y a un autre truc qui est important aussi, c'est que je pense qu'il faut aussi savoir dissocier soi-même de sa start-up. Le problème, c'est qu'on y mêle tellement d'ego dans ce qu'on fait, qu'à un moment donné, on se dit « j'ai pas le droit d'arrêter, sinon c'est un échec personnel ». Toi, c'est un échec dans ma vie, quoi. Et ça, je pense que c'est important de faire la déconnexion et de se dire « en fait, c'est un projet entrepreneurial ». Ok, et si ça marche pas, ça peut ne pas être parce que t'es mauvais. Tu vois, ça peut être parce que le marché s'est retourné, parce qu'il s'est passé des choses. Et qu'à un moment donné, ouais, il faut juste prendre conscience du fait que, ben voilà, ça s'arrête. Mais c'est pas pour autant que t'es un idiot et que t'as tout raté. Et ça, c'est compliqué pour les gens parce que il y a une vraie association de son ego à ce qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est très dangereux.
On enregistre cette émission juste avant le match France-Maroc et l'heure approche. Donc, on va conclure et on arrive un peu à la fin de cette émission. Tu as évoqué un point super important, Pierre, c'est celui de la culture. Alors, culture, hein, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien parce que c'est un sujet aussi un peu tarte à la crème et que dès qu'il y a de la tarte et de la crème, tu aimes bien entartrer tout le monde avec ça, quoi, en fait. Mais tu as absolument raison, je suis d'accord avec toi, la culture... c'est peut-être le truc même plus que le product market fit, parce que le product market fit, il a peut-être changé, ou il va peut-être changer, mais la culture, elle, tu peux pas la changer en période de récession. Donc, le travail que t'as fait, quelle est la culture de ta boîte que t'as bâti ces derniers mois, elle va être déterminante dans la période de récession. C'est quoi cette culture d'ailleurs?
C'est un vaste sujet, la culture, c'est la personnalité d'une entreprise. En fait, c'est ce qui permet aux gens de se comporter sans que ça ait jamais été écrit. Et donc, pour réfléchir à la culture, il faut réfléchir à, pour moi, deux choses. Tes convictions fortes que les gens doivent partager avec toi et tes valeurs.
Et tes comportements aussi, hein. C'est aussi des comportements.
Ah, c'est que des comportements. À partir du moment où tu as compris tes convictions et tes valeurs, tu en déduis des comportements. Tu dis, parce que j'ai ces convictions et parce que j'ai ces valeurs, voilà comment on devrait se comporter chez moi. D'accord? Et c'est cette adhésion à ces valeurs, à ces convictions et tout ça, qui fait que les gens ont envie de rester et ont envie de se battre. Donc oui, c'est hyper important.
Mais du coup, si t'as mis en place une culture, par exemple, sur le happiness, tous les vendredis, on boit un coup ensemble et on passe un grand moment ensemble, machin, et puis dans la période de récession, tu peux plus faire ça. Donc les gens, ils sont là, merde, il y a plus ces moments de joie.
Mais ça, c'est pas de la culture.
Ok, c'est ce que je voulais t'entendre dire, en fait.
C'est pas de la culture, ça, c'est le dinosaure gonflable dans l'open space, c'est pas de la culture. La culture, c'est j'arnaque pas mes clients. La culture, c'est quand t'as un bug et tu trépines sur le bug depuis 2 heures, tu lèves la main. La culture, c'est le meeting, il dépasse pas 15 minutes. La culture, c'est vous avez le droit de sortir du meeting si vous n'apprenez rien. La culture, c'est on communique même nos doutes. La culture, c'est tout ça. Donc, c'est des éléments qui sont qui n'ont rien à voir avec l'apparat du goûter ou du dinosaure ou du baby-foot. On s'en fout de tout ça. La culture, c'est un partage de valeurs et de convictions.
Ben.
Et puis, même, tu peux même pousser le truc, tu vois. Même si tu penses justement que partager ces moments... avec l'équipe, c'est important. Je rappelle que, tu vois, durant les guerres de 40, nos grands-parents, ils n'étaient pas tous malheureux. Il y a moyen d'avoir de passer des bons moments dans la simplicité. Donc, ce que tu faisais en louant une boîte de nuit avec du champagne, ben, t'as un pack de crocs et tu le fais au bureau, tu vois.
La culture, ça coûte rien. Exactement. En fait. C'est ça le truc. C'est que la vraie culture, il devrait pas y avoir un seul dollar attaché. Je vous donne un exemple, par exemple, chez Uncut dans ma startup. J'ai un mec en Ukraine, mon back-end développeur. En ce moment, en Ukraine, il n'y a pas d'électricité. OK. On a poussé la nouvelle version de Uncut et il n'y a pas d'électricité. André, il me dit, je vais dans des coffee shops où il y a des, comment on appelle ça, des générateurs. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de monde, machin, et rien. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il était dans sa voiture, sa copine conduisait, il faisait 300 km par jour. Alors, il a grillé du gaz, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas de problème, hein, de l'essence, il y en a partout. Et avec son portable branché sur son allume-cigare, avec sa copine qui conduit pendant 300 km par jour, et lui qui code à côté sur le siège passager. OK ? Connecté à Starlink dès qu'il a Starlink pour pousser le code. Ben, je peux vous dire que ça a fondamentalement créé de la culture dans la boîte. C'est-à-dire le mec qui, lui, est à SF, hein, avec l'électricité, des M&M's bleus dans un bol, et qui voit André, en fait, fondamentalement, ça, c'est ça la culture. C'est des éléments comme ça, et c'est ce genre de choses-là qu'il faut, en phase de récession, c'est de savoir si tu as des mecs qui sont capables de faire ça, quoi, en fait. C'est vraiment ça qui fondamentalement crée la culture, non?
Ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus tout noircir. C'est vrai que je pense qu'il y a moyen de se battre. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la tech. Je pense que la tech est une des solutions aux problèmes du monde. Et que donc, il y aura des opportunités qui vont émerger. Et qu'il y aura des entreprises qui vont énormément réussir en temps de crise. Ça aussi. Moi, je pense que la crise a une, c'est dur pour certaines personnes, mais pour certaines boîtes qui devraient pas exister, c'est un peu normal qu'elles meurent, si tu veux. Donc, en fait, pour moi, la crise, c'est un peu un truc qui va aplanir tout ce qu'on a pu vivre depuis quelques années, qui était un peu hors du commun et un peu délirant, pour être très clair. Et donc, ça va remettre un peu l'église au milieu du village. Donc, c'est pas plus mal. Pour autant, il faut pas être noir. Je pense que on a besoin que les gens soient entrepreneurs, que les gens aient du courage, que les gens fassent des choses, parce que c'est ça qui va déterminer le monde dans lequel on va vivre demain. Donc, c'est important de le faire. Voilà, donc pour moi, si tu veux, je suis pas noir. Je suis noir pour les gens qui ont pas de raison d'exister. Mais pour les gens qui ont une raison de faire un truc qui peut marcher, moi, je suis plutôt, allez-y, foncez, quoi. Je pense qu'il faut pas non plus totalement se rétrécir et se dire, je vais tout couper, tout machin, etc. Je pense qu'il faut garder son ambition. Il faut être mesuré. Tu vois, je pense que, par exemple, quand tu définis des objectifs, au lieu de les définir à 6 mois, il faut les définir à la semaine. Tu vois, il faut être beaucoup plus nimble et se dire, OK, ben, je vais avoir des milestones et je vais reforecaster tout ce que je fais tout le temps.
Mais ça m'empêche. Et créer des mini victoires.
Ça m'empêche pas, ouais, que t'as envie quand même de monter la colline, quoi, tu vois. Faut garder ça en tête.
Un dernier message d'espoir et pour les entrepreneurs qui sont dans la tempête et sur leur petite coquille de noix au milieu de l'océan.
Ouais, le message d'espoir, il est très clair. Pour moi, c'est depuis la révolution industrielle, chaque jour est plus technologique. Donc, si tu fermes les yeux et que tu réfléchis au monde dans 10 ans, il ne sera pas moins technologique, ça n'est pas possible. Tu vois, c'est le train qui en marche et on croit tous que justement la technologie est là pour répondre aux grands problèmes de société. Tu vois, sinon on ferait pas ce qu'on fait. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai fondé Brega, c'est de me dire ce modèle, il est scalable. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, je peux peut-être essayer de changer une industrie. Grâce à Brega, je peux en changer 100. Tu vois, je peux aider 100 entrepreneurs à changer 100 industries. Donc fondamentalement, si tu crois à ça, les moments par lesquels on passe maintenant, c'est des moments qui sont des moments difficiles. Donc tu dois tirer le meilleur de toi-même. Et tu peux résoudre des grands problèmes de société parce que ces moments de crise, ils amplifient les problèmes de société. Donc, tu vas avoir des populations plus défavorisées, tu vas avoir des problèmes d'accès à l'énergie, tu vas avoir des problèmes de formation, d'éducation. Donc, tous ces grands challenges qui sont les nôtres dans le futur, ils ne pourront être résolus que par la tech et on a la chance inouïe de vivre dans cet écosystème. Donc, si on se recentre sur ce qu'on sait faire, si on se concentre sur notre vision et qu'on met en place des sociétés, des entreprises frugales mais efficaces dans le partage commun et dans l'objectif de rendre le monde meilleur, c'est un boulevard pour créer des boîtes incroyables.
Et je pense, et je ne sais pas ce que vous en pensez, je voudrais qu'on termine là-dessus. C'est peut-être la fin de cette culture de la unicorn où il y avait ce modèle de boîte absolument à croissance méga exponentielle et peut-être qu'on va revenir à ce qui était l'Internet au début, qui était une sorte de flopée de petites startups qui buildent des trucs super pertinents, qui sont très très frugales. C'est peut-être la fin de l'ère de la unicorn, Pierre. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, c'est les VC qui ont créé les unicornes, hein. C'est eux les fautifs, hein.
Ouais.
C'est eux qui ont dit, ouais, on va financer pendant 12 ans une boîte comme Uber, on va mettre 21 milliards dedans et ça va devenir le géant que c'est aujourd'hui. Rappelle-toi, Google, Amazon à l'époque, qui sont rentrés en bourse, ils avaient 5 ans. Ils faisaient 200 millions de chiffre d'affaires, c'était des petits trucs. Et en fait, les unicornes, c'est les VC qui ont dit, on va anéantir la concurrence et faire un immense géant. Moi, je suis partisan de dire que d'abord, une licorne, c'est pas forcément un objectif dans la vie, et qu'en fait, il faut une diversité des solutions pour avoir des marchés équilibrés. Avoir qu'un seul Amazon, c'est pas net, c'est pas sain. Tu vois, avoir un seul Uber, c'est pas bien. Non, il n'y a pas qu'un seul Uber, il y a plein d'autres solutions. Donc moi, les licornes, ça m'a jamais tellement fait vibrer. Ça fait vibrer les politiques, mais moi, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on peut créer des entreprises de taille raisonnable et de taille certaine, sans forcément avoir l'objectif de la licorne. Après, c'est Peter qui serait pas d'accord avec moi. Il dirait, en fait, il faut jouer le monopole.
Un VC, on va demander à un VC. Ben, il est peut-être pas d'accord avec toi. Il a besoin d'unicorne dans son portefeuille aussi, quoi, en fait, quoi.
Oui, bien sûr que j'en ai besoin. Mais j'en ai besoin pour ce qu'elle transforme et ce qu'elle crée fondamentalement. Pas juste pour la breloque d'avoir le titre de unicorne. Parce que tu vois, une unicorne qui n'est juste qu'un amas d'argent, ça n'a pas d'intérêt. Et tu vois, on va en voir une palanquée dans celle qu'on a connue récemment qui vont s'écrabouiller. C'est normal. En revanche, ce terme-là, si tu le dévis pas, si tu le détournes pas, et si tu permets de mettre derrière ça quelque chose d'un peu différent, qui est de dire, j'ai créé une boîte qui a atteint une taille telle qu'elle a transformé son industrie, parce que ça devrait être ça, une vraie unicorne. Ça, c'est excitant, tu vois. C'est ça que j'ai envie de baquer. Le financement, ça n'est qu'un moyen. C'est un moyen d'atteindre un niveau, on parlait tout à l'heure de jeu à somme nulle, où t'as transformé ton industrie. Ça, c'est bandant. Et c'est ça qui fait en fait vibrer. Donc malheureusement, ça a été dévoyé. Pierre a raison. Il y a des gens qui ont joué la valo à tout prix.
Bonne chance aujourd'hui, hein, d'ailleurs, avec ces valos.
Ouais, aujourd'hui, c'est foutu. Mais donc fondamentalement, c'est ça. Je pense que la finance, c'est un outil. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est transformer l'industrie dans laquelle on évolue et donc le monde qui nous entoure, évidemment. Et après, le reste, c'est la conséquence de ça. Si tu arrives à monter une boîte qui est successful et qui transforme l'industrie dans laquelle elle bosse. Ah bah la clé de ça, c'est que tu as créé une super boîte qui aura la breloque de licorne.
Bon, on va souhaiter bonne chance aux entrepreneurs. Ils vont en avoir besoin, de la chance et puis du courage. Et puis, gardez vos convictions, gardez votre ambition. Comme dit Pierre et Ben, c'est super important de continuer à croire en la technologie parce qu'effectivement, dans le monde qui devient de plus en plus compliqué, on a besoin de technologie pour régler les problèmes du quotidien. Voilà, et on continuera de parler de ce sujet-là, bien évidemment, dans Silicon Carnage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Hasta luego, amigos!